C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici et d'avoir l'opportunité de discuter parmi des collègues dont le travail nous suivons et admirons quelques aspects de notre recherche. Je vous remercie. Je veux féliciter et remercier Virgil Bosch-Preyre et Yasmine Ciblot pour l'édition de ce livre, dont j'ai eu le privilège de participer, « Classe sociale et politique au Portugal, pratique du métier de sociologue ». Et j'espère que sa publication pourra nous offrir des opportunités additionnelles d'engagement et discussion scientifique. Je lirai maintenant quelques notes élaborées avec José Madureira Pinto, qui ne peut être ici aujourd'hui, et avec aussi la collaboration de Virgil Borges Pereira, sur les études sociologiques menées en Fonte Arcada, une petite collectivité locale du nord-ouest du Portugal qui est devenue un contexte de référence au sein de la sociologie portugaise. En effet, les études menées durant la deuxième moitié des années 1970 par José Madureira Pinto et João Ferreira de Almeida dans cette commune, études qui ont été associées à la démarche d'attribution des premiers titres de doctorat en sociologie du pays, sont fréquemment considérés comme un des moments fondateurs de la sociologie universitaire au Portugal. Et le fait est que tous, ou presque tous, les études présentées dans ce livre sont de quelque façon tributaires de ces études originaux. Les études ne sont pas directement réfléchies ici, mais c'est un très grande, une absence beaucoup présente. Aux années 1970, l'intérêt de l'étude sociologique des contextes ruraux du nord-est portugais résidait dans la possibilité de documenter les dynamiques d'adaptation et de résistance de la paysannerie au processus de transformation qui traversait la société portugaise. Pour conceptualiser le village et la commune de Fonte Arcada, petit hameau de près de 1500 habitants situé dans la municipalité de Penafiel, à environ 30 km de la ville de Porto, mais clairement intégré dans un cadre social et paysager à forte dimension agraire, l'accent était alors mis sur la pertinence d'un point de vue sociologique centré sur la famille et sur l'inégalité de la distribution de la propriété et de l'usage de la terre, d'où résultait une lecture des processus de liaison qui se produisaient localement entre l'activité agricole, le groupe domestique et l'interconnaissance. Les deux sociologues engagés dans le travail d'origine avaient réuni à cet effet une équipe de spécialistes qui initia une recherche conjuguant des stratégies d'observation quantitative et qualitative. Pour cela, les auteurs ajoutèrent un relevé exhaustif d'informations statistiques sur le pays, la région et le contexte local, un travail d'enquête par questionnaire soumis à tous les foyers du village à des fins de documentation de la démographie et de la relation avec l'activité économique de ses membres, alliée à une démarche d'observation dense de la vie quotidienne locale. Les résultats de ces travaux, publiés en 1985 et 1986 en deux livres correspondant génériquement aux thèses de doctorat présentées par chacun des auteurs au début de la décennie, furent aussi accompagnés de la publication d'un ensemble d'articles très vastes qui documentaient des dimensions pertinentes de la structuration sociale locale. Sous l'influence d'une conception de la théorie sociologique largement inspirée par la tradition française et surtout par l'œuvre de Pierre Bourdieu, les priorités théoriques des auteurs incluaient, entre autres, des propositions pour la conceptualisation sociologique de l'espace rural, des relations entre les classes au sein des contextes paysans du nord-est du pays, des relations de voisinage et d'entraide dans les champs, des pratiques festives et de la religiosité paysanne et des caractéristiques politiques des groupes sociaux étudiés, outre d'importantes contributions relatives à la dynamisation du travail monographique en sociologie. À l'époque, Fonte Arcada tenait encore une économie fondée sur des petites exploitations agricoles ayant des liens réduits avec le marché, tout comme un système de relations sociales globalement marqué par l'interconnaissance certaines formes d'entraide dans les tâches agricoles et quelques réseaux de solidarité active entre voisins. Mais derrière la façade d'intégration socio-symbolique des relations sociales locales, la forte concentration de la propriété de la terre surchargée à travers le paiement des rentes un nombre important de familles de la paysannerie locale, qui ainsi voyaient leur propre subsistance fréquemment mise en danger. Dans ce cadre d'inégalité économique, à laquelle s'est jointe l'incapacité globale de l'agriculture portugaise à se moderniser et à accroître ses niveaux de productivité, le nombre d'habitants à la recherche de meilleures conditions de vie hors de la collectivité va augmenter dans les années 1960 et 1970, non proprement à travers de fortes migrations internes définitives ou de l'émigration vers d'autres pays européens, comme ce fut le cas dans d'autres régions du Portugal et du nord du Portugal, mais surtout par l'intermède de mouvements pendulaires journaliers, principalement en direction à l'aire métropolitaine du Porto. L'intensification du salariat dans des activités extérieures à la collectivité n'a toutefois ni provoqué un désinvestissement soudain dans le travail au champ, ni l'effondrement de l'économie paysanne locale. En réalité, parallèlement à l'émergence d'un groupe de migrants pendulaires qui étaient devenus salariés à plein temps et à titre exclusif dans des segments d'emploi de l'espace urbano-industriel de l'aire métropolitaine de Porto, s'est maintenu parmi les habitants de Fontecada un ensemble d'actifs qui associaient à leurs conditions ouvrières une participation non rémunérée mais régulière et parfois même intense à la vie des exploitations agricoles locales. Pour être plus précis, la proportion de groupes domestiques qui, en 1978, comprenait au moins un membre exerçant sa profession principale dans des activités industrielles et tertiaires extérieures à la collectivité, famille de ce que les auteurs appelaient la paysannerie partielle, était, selon l'enquête effectuée à l'époque, de 52%. Le pourcentage des familles dites paysannes, consacrées totalement aux activités agricoles et préservées de toutes les formes salariales, atteignait non plus que 17%, tandis que les familles d'ouvriers de l'industrie ou de la nouvelle petite bourgeoisie d'exécution tournaient à peine autour de 10%. Il convient de souligner l'importance assumée par le segment de familles issues de la paysannerie partielle dans les transformations sociales en cours à cette époque. En fait, si d'une part, elle garantissait la survie dans un certain sens hors du temps de l'économie paysanne locale. En revanche, elle constituait, d'autre part, un espace privilégié de changement culturel, idéologique et politique. La participation croissante de migrants pendulaires dans des dynamiques familiales et de voisinage n'influenciait pas seulement la routine quotidienne des membres de la collectivité, mais également son système de valeurs, de croyances, d'aspirations, d'orientation politique, de modèles de loisirs, de pratiques religieuses. Dans cette petite collectivité rurale du nord-est du Portugal, la dénommée urbanisation des consciences, alors profondément marquée par les vicissitudes du processus de démocratisation sociale et politique suite à la révolution de 1974, faisait rapidement son chemin. Dans un contexte dans certains désinvestissements analytiques de la sociologie de la campagne portugaise, la revisite de Fontecada s'est montrée une démarche d'investigation prometteuse. Accompagnée d'un groupe constitué de nouvelles générations de spécialistes en sciences sociales, parmi lesquels divers autres sociologues, mais aussi une historienne, une économiste, un géographe, une architecte et une équipe de cinéastes documentaristes, José Moreira Pinto et João Ferreira de Almeida, organisèrent une stratégie de revisite du contexte d'investigation qui ouvrait de nouvelles perspectives au regard sociologique construit dans les premières études. Fidèle au cadre analytique original, la stratégie d'observation impliquait la reconstruction de l'histoire du contexte de l'étude et de son encadrement territorial à partir d'un travail très étendu de constitution de séries statistiques sur la démographie, la relation avec l'activité économique, la politique et la religion, Cette perspective fut complétée par le perfectionnement d'une étude de cartographie historique et de l'adéquation des statistiques régionales à une telle lecture. Toujours en accord avec la stratégie d'observation dynamisée dans les premières études, une enquête par questionnaire d'approche extensive soumise au groupe domestique du village a reconstitué la composition économique et démographique de chaque famille sur la base d'un travail mené durant l'année 2007. En complément à un ensemble d'entretiens en profondeur auprès d'informateurs privilégiés, la dimension plus qualitative de la recherche permet d'examiner en profondeur auprès d'informateurs privilégiés la dimension plus qualitative de la recherche, permet d'examiner en détail les différentes dynamiques de production de la vie quotidienne locale. La dimension de collecte d'informations par le biais de la photographie ethnographique a été récupérée pour compléter ce cadre de travail, de même que lors des premières études, mais avec l'ajout d'une nouvelle caractéristique documentaire par le recours à la caméra vidéo et à la production d'un film ethnographique sur la localité et le travail sociologique mené par l'équipe durant les 4 années d'activité de recherche dans le terrain. 31 ans plus tard, Fontercade ne peut plus être considérée comme une collectivité paysanne. Selon l'enquête effectuée en 2007, les personnes actives de l'agriculture à plein temps ne représentent que 5% de l'emploi total, tandis que la proportion d'individus définis comme ouvriers industriels et de la petite bourgeoisie d'exécution atteint respectivement 45% et 23%. Pour caractériser le stade des relations sociales à ce moment-là, d'autres facteurs relatifs à la composition sociale et des classes doivent être mis en évidence. Premièrement, la proportion élevée de salariés travaillant hors de la collectivité, plus de 80%, c'est-à-dire deux fois plus qu'en 1978. Deuxièmement, la forte participation des femmes pas seulement dans les activités agricoles, lesquelles, bien que minoritaires, persistent dans la collectivité, mais surtout dans les segments secondaires et tertiaires du marché du travail, s'incluant ici le travail dans des services locaux et dans les 2 usines de l'industrie du vêtement localisées au village. Troisièmement, et c'est un point que nous avons développé en détail, les travaux que moi-même et Bruno, par exemple, on fait sur les migrants de la construction, le pourcentage élevé d'hommes qui, même dans la génération plus jeune et plus instruite, sont employés dans l'industrie du bâtiment et dans d'autres segments peu qualifiés et précaires de l'économie. Nonobstant la participation d'un grand nombre de ces habitants dans des activités salariées dans un milieu urbain, Fontercade a conservé jusqu'à aujourd'hui de multiples marques associées à la ruralité, à savoir celles qui sont relatives à la préservation d'un insinuant paysage agroforestier et à la consolidation de l'ensemble édifié ou la maison individuelle de construction déjà ancienne ou plus récente continue à prendre très clairement l'ascendant sur l'habitation à plusieurs étages. Si, comme le reconnaissait la plupart de ses habitants, Fontercade est surtout devenu aujourd'hui un dortoir d'actifs qui travaillent aux villes, tout indique d'autre part que l'impact perceptuel du paysage qui ici reste globalement vert continue à évoquer au rythme de la navette la dépendance relative au processus naturel et le lien étroit avec l'espace local qui caractérisait l'agriculture et l'espace social paysan. Et cela d'autant plus que la proportion d'habitants dont la famille d'origine était étroitement liée à cet univers est significative. C'est comme si, grâce à l'ajustement réactivé en permanence entre, d'une part, des dispositions des mémoires et des petits mythes encore influencés par l'étau paysan, et d'autre part, l'inévitable contact visuel avec la nature et les marques objectives de l'agriculture passée, un stade révolu des relations sociales locales continue à résonner à travers les pratiques et les aspirations des migrants pendulaires, enfin une espèce de répaysanisation des salariés du village. Cette tension forte entre changement et reproduction sociale se manifeste au quotidien de Fondercada de plusieurs façons. Pour conclure de manière synthétique, nous pouvons dire qu'il est possible de voir, d'une part, l'émergence d'un type d'individualisme marqué par ce que plusieurs auteurs désignent urbanisation de la conscience, en s'exprimant par une perte du sens de l'honneur et de la solidarité communautaire, par la dépersonnalisation des relations interindividuelles, par l'émergence de stratégies de distension basées sur la consommation, par l'adhésion à une morale utilitariste. Il ne sera pas surprenant que Pierre Bourdieu ait décrit ce processus comme une manifestation de prétention, ou plutôt pré-tension, si nous acceptons qu'il corresponde à l'aspiration à une promotion sociale qui, en fait, n'a pas encore de manifestation nette de concrétisation. En effet, et voilà une autre dimension relevante à signaler, ce qui se vérifie ici est que bien que dans des stades divers et temporellement éloignés du système de relations sociales locales, la subalternité du statut social continue à s'imposer à la majorité des habitants de la collectivité. Scolarisation basse, insertion dans le marché du travail dans des segments précaires et peu qualifiés, budget familial modeste, mobilité spatiale strictement contrainte par le travail. Même les fêtes locales, devenues en certain sens un bastion de résistance identitaire des plus démunis, contribuent à leur manière à reproduire les traits de cette subalternité sociale. Comme nous disons fréquemment à ce propos, en Fondercada, la lutte quotidienne, aujourd'hui comme d'ailleurs, continue. Merci.
Merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup pour avoir venu à ces présentations-là. Je ne voulais pas répéter le remerciement de Virgilio que... J'espère que vous savez qu'ils sont extensifs à toute l'équipe qui participe du livre. J'ai une situation un peu déconfortable de vivre au-delà de mes possibilités. Après avoir vu ces très beaux ouvrages, c'est vraiment impressionnant. Je remercie beaucoup à tout le monde qui s'est impliqué dans la construction de ces livres et tout spécialement à le responsable éditorial de la maison de l'édition. Je savais bien comme c'est difficile de gestionner parfois les relations avec les auteurs. Mais aussi à Yasmine Ciblot, à Virgilio Borges-Prer, pour son engagement dans ces causes. Et je suis vraiment heureux d'avoir participé à ces projets-là. Eh bien, c'était une très brève intervention sur les préconditions épistémologiques et méthodologiques qui ont soutenu notre recherche sur les intellectuels, de laquelle une très petite partie s'est publiée dans ces livres-là. Et j'irai lire pour tenter de limiter l'agression que je fais constamment au français, mais quand même, je voulais dire que pour moi, c'est aussi une occasion de démontrer que les effets sociaux à distance, qui sont provoqués par exemple par la circulation internationale des idées, se pourront devenir des rencontres interpersonnelles très fortes pour la constitution de vrais collectifs scientifiques internationaux, dans une démonstration de, je pourrais le dire, pour maintenir le vocabulaire militantiste, une internationale de la recherche théoriquement engagée, et aussi engagé avec la connaissance des structures sociales et de ses impacts dans les plus infimes pratiques sociales. Et voilà, c'est une intervention surtout sur la méthode que nous avons conduite avec un registre prosopographique sur des intellectuels portugais d'une période très spécifique de l'histoire. Nous expliquerons pourquoi c'est spécifique. Et ces présentations-là, je pense que Vítor Pereira, qui connaît très bien ces photos, ils sont des photos que typiquement la police politique de l'État nouveau, de Stadnov, faisait de tous ces détenus. Et c'est la photographie d'un intellectuel de Porto qui s'appelle Pepinian Carlos. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est connu surtout comme auteur de livres pour l'enfance, mais il a été aussi un très influent poète, un grand rénovateur de, ils appelaient le néoréalisme au Portugal. C'était un néoréalisme très, très original. Il a été aussi, jusqu'à ma connaissance, le premier à publier une anthologie de poésie africaine au Portugal, de gens comme Augustine Nete, par exemple. Elle a été une influence très grande, et pour moi, c'était ce type d'intellectuel-là qui exige que nous faisons une recherche qui reconstitue les situations de contemporanéité, parce que c'est quelqu'un qui a été effacé de l'histoire, pour ainsi dire, et que c'était vraiment influent dans ces moments-là, et c'était seulement connaissable après une vraie démarche. Eh bien, la sociologie a montré un intérêt inconstant pour la prosopographie depuis que Robert Merton l'a utilisé pour explorer empiriquement, à partir d'une sélection de nouvelles biographiques, l'importance des facteurs sociaux et culturels dans la naissance de la science moderne au XVIIe siècle. C'était un texte qu'il a publié en 1938. C'est après, a laissé peu de traits dans l'histoire de la sociologie. Les travaux de Victor Caradi, et Victor Caradi c'était très influent dans notre recherche, il a été aussi mon superviseur pendant mon postdoctorat, et Rémy Ponton, au début des années 1970, au moment même où un test programmatique de Lawrence Stone, dans un autre contexte intellectuel, est publié, avoyant donc une importance primordiale pour la récupération de la prosopographie par les connaissances sociologiques. Depuis lors, elle a été appliquée à plusieurs reprises à de nouveaux contextes territoriaux, à de nouveaux protagonistes sociaux et à de nouvelles périodes historiques, dans le but d'étudier la composition et les mécanismes internes des institutions ou les structures d'opportunité des collectifs sociaux. Les mécènes et les protecteurs des orateurs romains, les scientifiques et les savants des Lumières, les responsables politiques de la République démocratique allemande, les procureurs royaux de Portugal ou les patrons de l'Allemagne nationale-socialiste ont vu la logique intrinsèque des universalisations et du sang dans lesquelles ils se seront être examinés par le relevé approfondi et complet des biens matériels et symboliques, les modèles plus ou moins constants des relations et des trajectoires biographiques qui les caractérisent. Et faisant appel à l'importante héritage des sciences sociales, même au Portugal, nous avons voulu reconstruire le réseau des clivages et d'interdépendance qui a guidé le cosmos local des intellectuels de Porto entre 1958 et 1966, un environnement chronologiquement marqué par des critères sociaux et historiques importants. Nous avons réalisé trois opérations de construction pour circonscrire l'univers intellectuel de Porto. Premièrement, la territorialisation de l'espace social. Deuxièmement, l'historicisation de la contemporanéité et finalement, la désindividualisation des créateurs culturels. La première opération a consisté à attribuer la localisation des intellectuels de Porto à une configuration des rapports de force structurés par la lutte concurrentielle, par les investissements consentis et par le profit tiré des formes de valeur situées sur la ville, entre autres privilèges et positions institutionnelles, titre de notoriété endémique, réseau de connaissances interpersonnelles. Cependant, au lieu d'emprunter une notion préétablie de la ville, nous avons traité Porto comme un exemple singulier de l'espace social local qui, en vertu du filtre créé par ce type de régime autochtone que réglement les valeurs matérielles et immatérielles qui y sont échangées, constitue un système territorialisé des relations de pouvoir entre intellectuels qui, asymétriquement placés entre eux selon le patrimoine culturel et économique, ont les intérêts, investissements et bénéfices liés à Porto. Ainsi, l'espace social des intellectuels de la vie constitue une chambre de force qui exige, voire impose, la participation d'intellectuels dont les intérêts, les ressources et les profits sont bien établis dans la vie. Elle-même est, en même temps, une chambre de bataille où ces intellectuels, selon les atouts instruments et stratégies qui se pouvant activer de manière asymétrique, bien sûr, se font concurrence pour promouvoir les positions relatives dans la structure de distribution des opportunités et contraint localement en force. L'espace social des intellectuels de Porto peut ne pas se superposer parfaitement aux frontières politiques et juridiques de la vie. Une surface de tension qui soumette les masses et les énergies que la Terre Vincent a des transformations ses limites apparaissant précisément là où ces effets de champ se sentent. Selon Ernest Cassirer, ce concept a un concept fonctionnel ou relationnel plus que substantiel. Plus qu'une chose, un postulat ou une solution, c'est une technique de construction qui est ici en cause. La deuxième opération consistait à circonscrire l'espace d'expérience et l'horizon d'attente, et ce sont les expressions utilisées pour Reinhard Koselleck, que le groupe des intellectuels de Porto a compris dans une conjoncture précise 1958-1965. Ernst Bloch nous avait déjà préparé à la multiplicité des temporalités sociales que la simultanéité chronologique soutient. Pour fixer un présent théorique pour l'intellectuel, il faudra, par exemple, trouver un autre pour les ouvriers. Nous avons essayé de fixer chronologiquement, avec des suites de transition et non des séparations étanches, un régime de temporalité particulier basé sur des critères d'importance sociologique. On peut citer, entre autres, le début de la deuxième vague d'opposition à l'Estado Novo, qui a commencé avec, surtout avec les élections où la fraude électorale a déterminé la fin des aspirations de Humbert Delgado. Le renouvellement des formes de participation civique et intellectuelle de la vie, exprimé de façon symptomatique par la cesse des membres de l'opposition aux collectivités de Porto. Par exemple, c'était une coupure d'un journal très intéressant parce que le jour après l'élection de la nouvelle direction de l'association des journalistes et hommes de lettres de Porto, le policier responsable pour accompagner ces associations-là a noté tous les procès que ces gens-là avaient déjà dans la police. Et vous pouvez voir, ils sont des dizaines de registres qui faisaient le contrôle des gens qui ont, par la première fois, c'était un effet de l'opposition sur les institutions. Cela veut dire que même si la campagne a fracassé, il y a des effets qui ont resté et une de ces conséquences a été l'occupation de certaines associations culturelles. Je veux dire qu'ils ont gagné, l'opposition a gagné ces élections deux fois et après avec une fraude électorale menée par la Légion portugaise, il y a un registre dans la Légion portugaise qui disait cela, ils ont perdu pour une autre liste soutenue pour des candidats. Bon, pour le dire, situationniste, c'est l'expression normande. Non. Bon, mais il y a un autre. Je savais qu'il y a tout un autre signifié, mais au Portugal, c'est situationniste, c'est quelqu'un qui bénéficie de la situation. C'est ça.
Ouais. À l'époque, c'est un mot très, très, très marqué de
la dictature. Oui, nous savons que Desbordes ne serait pas d'accord avec nous. Bon. En tout cas, pour le dire, la vague de répression qui coïncida avec l'intensification de la guerre coloniale. La guerre coloniale a commencé en 1961 et c'était très influent dans ce sens. En ce sens, notre exercice de recherche est proche d'une socio-histoire de la contemporanéité, une variante historiographique qui cherche à restaurer la constellation d'agents et le circuit de connexions qui ont participé simultanément à la modulation de l'actualité de la production intellectuelle de Porto dans sa conjoncture. Si dans la première opération, la localisation des intellectuels dans l'espace social de la vie de Porto était principalement importante, dans sa seconde procédure, nous étions surtout intéressés à enregistrer leur localisation dans le temps. Enfin, la troisième opération consiste à réaliser une biographie collective des intellectuels de Porto qui ont participé activement à ces périodes historiques avec leur création intellectuelle, leur intervention culturelle, leur lien avec leur père et leur occupation et appropriation de positions liées à l'univers culturel du temps. dans le section suivant que Virgilio fera, nous explorerons plus en détail les virtualités que l'option de la prosopographie pourrait apporter à notre travail socio-historique. Je voulais seulement montrer très rapidement le type de sources que nous avons utilisées. Nous avons fait l'identification de tous ces intellectuels après la participation dans des revues littéraires, artistiques et culturelles. Dans un premier moment, nous avons identifié tout le monde qui participait dans ces univers. Après, nous avons aussi fait une récolte très exhaustive des dictionnaires biographiques et encyclopédies de tous les occupants des positions d'institutions culturelles ou qui ont un critère de productivité intellectuelle, qui sont engagés dans la production culturelle. Et nous avons aussi, c'est pour nous, et c'est très, très important, nous avons aussi utilisé des fonds très importants qui sont détenus pour les archives de la police politique et pour la Légion portugaise. Avec la considération méthodologique très importante de critiquer les sources, parce que l'enregistrement qui est détenu dans ces archives-là, il correspond au point de vue policiel. Et c'était un point de vue très intéressant de voir. Il faudra peut-être écrire quelque chose sur la catégorie de l'entendement de la police. Parce que nous pouvons parler de cela après, mais c'est quelque chose de très intéressant pour nous de faire ces critiques de ces points de vue-là. Et après aussi, nous avons fait un très, je pense, gros... ensemble d'interviews. Nous avons interviewé 60 intellectuels et nous avons fait aussi la récolte de plus de 20 ans mémoires et autobiographies. Ils sont inédites. Et je voulais dire que quelques des effets de ces recueils se manifestent seulement aujourd'hui parce que ces intellectuels-là, ils ont commencé à mourir. Hein. Et ils ont donné une valeur de surplus à ces interviews. Et cela veut dire que nous devrons, nous sociologues, nous pouvons contribuer à l'histoire du futur. Et je pense que c'est une note très importante pour la recherche que nous faisons, de constituer des grands ensembles qui pourront servir à des gens pour critiquer notre travail dans le futur. Hein.
Ok, je passe pour... Bon, plutôt que de prescrire une formule ou de consolider en canon, notre propos se limite ici à présenter les avantages potentiels de la prosopographie en exemple issu du processus d'objectivation sociologique du cas particulier de l'intellectualité de Porto. Articulé avec un style de raisonnement particulier, le recours à la prosopographie correspond, selon Fritz Ring, à une tentative de passer le préconscient dominant dans l'histoire des idées, à commencer par la tendance à traiter les idées cohérentes comme des causes en causées ou à les investir de la force irrestible de la logique. Au lieu de hypostaser la production symbolique idéologique d'une époque, nous avons essayé d'autre part de la relier aux circonstances dans lesquelles se trouvent les intellectuels en révélant leurs institutions et pratiques. Pour ce faire, au lieu d'essayer d'isoler hermétiquement l'ordre des produits intellectuels, exercice déjà critiqué comme purement textualiste, nous avons cherché à développer une recherche sociologique qui se concentre sur les producteurs intellectuels sans dissocier leurs expériences et attentes leurs propriétés sociales et économiques. L'exégèse des créations est associée à la sociologie des créateurs, ce qui, par extension, l'empêche de séparer le spirituel de l'intellectuel des autres aspects plus matériels de leur existence sociale, comme le patrimoine économique, les liens sociabilitaires ou la voie du militantisme politique. Les instruments de questionnement que nous avons utilisés pour tracer les trajectoires biographiques des intellectuels de Porto, qui sont traduits par une matrice individuel de 192 éléments que nous avons remplis minutieusement et exhaustivement pour un groupe de 199 intellectuels de Porto, ils étaient plus, mais de toute façon, c'est ceux qu'on a gardés, nous ont permis de reconnecter le plan du sens qui porte la signification, le contenu et le style des œuvres au plan des structures sociales établies entre créateurs eux-mêmes. En ce sens, la prosopographie peut, selon Heinrich Best, compromettre ou s'effondrer la ligne de séparation traditionnellement érigée entre méthode qualitative et méthode quantitative. Dans les opérations de prospection et de sélection des 199 intellectuels à inclure dans la prosopographie, nous avons commencé par rejeter les critères d'appartenance à caractère moraliste ou politique, car ils prescrivent et façonnent une figure de l'intellectuel par la prévalence d'une mission, la présomption d'intention ou la divulgation de traces d'exception, l'idée du génie ou du marginal. D'autre part, nous avons veillé à éviter l'application anachronique ou rétrospective des indicateurs électoraux ou de réputation que nous tenons aujourd'hui pour acquis, en particulier la consécration que le passage du temps pourrait donner lieu et sa version négative, l'effacement de réputation qui était autrefois remarquable. En ce sens, nous avons utilisé comme critère les signes de productivité manifestes ou latentes des intellectuels qui indiquaient leur interférence actuelle au potentiel dans l'univers intellectuel de Porto et leur tendance et donc leur réactivité aux initiatives que d'autres intellectuels menaient dans ce même cosmos, exprimées par la création de produits symboliques et idéologiques, publication de livres, participation à une collection ou revue littéraire, tâches de coordination dans une page littéraire ou un journal, la formulation de critiques, en occupant des positions influentes dans le monde de la culture à Porto, postes dans les écoles ou collèges de la ville, admission dans les organes d'associations ou de collectivités culturelles, collaboration avec des organismes officiels pour la culture, ou en encourageant des initiatives qui impliquent et provoquent des prises de position sur la culture, appui à des pétitions ou hommages publics, participation à des expositions, colloques ou conférences sur des questions culturelles. Ainsi, les critères d'appartenance à l'intellectualité ne peuvent être fixés de manière extemporanée, hors du temps. Les intellectuels sont ceux qui, quelle que soit leur motivation ou les inspirations privées et indépendamment de l'appréciation contemporaine ou posthume de la valeur de leur travail, ont des pratiques potentiellement efficaces dans le monde intellectuel, c'est-à-dire des pratiques qui influencent et sont sensibles aux initiatives d'autres créateurs dans le même contexte social et territorial de référence pour un contexte donné. Cette option d'inclusion en vertu de l'activité ou de la productivité des intellectuels nous a notamment permis d'éviter la variante d'individualisme méthodologique que prévaut dans ces études sur les intellectuels qui adoptent l'idéologie de l'incommensurabilité intellectuelle, ignorant qu'elle change historiquement selon les transformations qui ont lieu dans les univers culturels mêmes, pour se concentrer sur les chefs-d'œuvre ou les créateurs exceptionnels. Cette option nous a donc permis d'éviter une histoire centrée uniquement sur les figures remarquables, amenant à la portée sociologique la multitude de journalistes, traducteurs, instituteurs et collaborateurs associatifs qui ont rempli l'épaisseur du monde de la vie culturelle de la ville de Porto.
Seulement pour dire, cela aussi nous permet de comprendre pourquoi certains roues ont certains noms.
Oui,
aujourd'hui nous rencontrons des roues qui ont des noms de gens qui ont mérité d'être
nommés. Donc,
et après ont été effacés. Et cela explique pourquoi. Ils sont parfois, ils ne sont pas seulement des marginaux, ils sont parfois des occupants des positions de plus grandes valeurs. Le plus grand pouvoir, et c'était important de faire ces récupérations pour cela.
Ok. En prolongeant les implications, je termine, d'une telle rupture, une autre option que nous avons prise a impliqué le passage d'une conception substantialiste de l'intellectualité qui la considère comme un ensemble uniforme et homogène d'intellectuels à une conception relationnelle qui questionne les structures mêmes de distribution de pouvoir ou atouts qui régulent les connexions en vigueur entre les agents efficients de l'univers culturel de Porto, c'est-à-dire son système intrinsèque de différences subjectives. Pour ce faire, nous utilisons une analyse de correspondance multiple que Jean-Paul Bonsécrit considère comme particulièrement raffinée pour mettre en évidence les relations entre les membres d'un groupe d'individus appartenant au même cosmos social. À partir des matrices individuelles que nous avons complétées pour tous les intellectuels, pour lesquels nous avons eu recours à un très large éventail de sources, comme nous avons vu. Nous avons pu constituer une base de données prosopographique avec une série de 60 variables examinées et pondérées à dessein pour notre programme de recherche. Par la suite, nous l'avons soumis à un traitement statistique qui nous a permis de penser ces intellectuels comme, non pas comme une population inerte et amorphe, une élite homogène, mais plutôt comme une structure de relations de pouvoir entre intellectuels ayant une activité culturelle pertinente. En accord avec notre point de vue théorique, la prosopographie est donc particulièrement appropriée pour enquêter sur les agents sociaux appartenant au même champ social, pour lesquels on recueille une vaste collection d'informations qui se veut aussi uniforme et stable que possible, dans le but principal d'étudier l'histoire et la logique du champ en question, et pas seulement les individus isolés. Les techniques de recherche liées à l'utilisation de la prosopographie sont, en somme, utiles pour obtenir une vision synoptique du champ, ainsi que pour comprendre les pratiques qui, bien que conditionnées par le champ, constituent les conditions de son développement. Merci.